VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. La mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, a annoncé qu'elle retirerait un millier de ses 22 000 soldats de ce pays cette année dans le cadre d'un plan prévoyant son retrait complet d'ici décembre 2020. Cette annonce a été faite par le représentant spécial de l'Union africaine en Somalie, Francisco Madeira, dans un communiqué publié mardi. La MISOM et ses 22 000 hommes venus d'Ouganda, du Burundi, du Djibouti, du Kenya et d'Éthiopie a été déployée en 2007 pour soutenir le fragile gouvernement central somalien contre les militants islamistes Shebab. La guerre en RDC fait grossir le flot des réfugiés en Zambie. Ils ont passé la frontière pour fuir la guerre, les meurtres et les viols. Plusieurs milliers de citoyens de la République démocratique du Congo se sont réfugiés ces dernières semaines en Zambie voisine qui peine à les accueillir. La plupart des quelques 6000 personnes recensées par les autorités de Lusaka sont originaires des provinces du Haut-Katanga et du Tanganyika dans le sud-est de la RDC, en proie à des affrontements entre l'armée régulière de Kinshasa et des milices. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, le HCR, cette vague est la plus importante depuis 5 ans en Zambie. Et toujours en RDC, l'administration du président Donald Trump a demandé au président congolais Joseph Kabila de quitter le pouvoir après les élections annoncées pour décembre 2018, selon un communiqué du département d'État qui salue la publication du calendrier électoral. L'ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Herman Cohen, estime que l'avancée en RDC résulte des efforts de Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU.
C'est une victoire pour Mme Haley, mais en même temps, Mme Haley a dit qu'il faut qu'il y ait une élection tôt dans l'année 2018. Comme c'est tard, c'est une déception. Mais quand même, je crois que Mme Haley a fait une ligne rouge. Il faut qu'il y ait une élection démocratique. Il ne faut pas que le président Kabila se représente comme candidat et il faut que tout le monde soit éligible, y compris les prisonniers politiques et les gens comme Moïse Katumbi qui sont en exil. Donc s'il y a encore de la glissement, il y aura des sanctions plus hautes, je suis sûr.
Herman Cohen, l'ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. En Centrafrique, plus de 1200 anciens combattants de l'ex-Séléka occupant 3 casernes de Bangui ont été sommés de partir par le gouvernement. Certains refusent d'obtempérer au moment où l'ONU veut augmenter ses effectifs de paix dans le pays. John Lindon.
En décembre 2013, près de 3000 rebelles de l'ex-Séléka sont entrés à Bangui pour chasser le président François Bozizé et occuper des casernes militaires. Depuis le départ en exil de Michel Djotodia, certains combattants sont rentrés chez eux, mais environ 1200 occupent toujours 3 casernes. Ils refusent de partir malgré une enveloppe de 100 000 francs CFA offerte à chacun d'eux par le gouvernement. Ces membres de l'ex-Séléka exigent 2 millions de francs CFA pour intégrer le processus de désarmement soutenu par l'ONU. Le Conseil de sécurité est appelé le 15 novembre à renouveler le mandat de la MINUSCA. Antonio Guterres, patron de l'ONU, a demandé un renfort de 900 casques bleus supplémentaires. Ce renforcement n'a toujours pas reçu l'adhésion des États-Unis, plus grand contributeur de fonds des Nations Unies.
Au Libéria, 4 partis politiques ont mené hier des pourparlers pour unir leurs efforts afin de soutenir la candidature à la présidence du vice-président sortant Joseph Boakai face à celle de l'ancienne star du football, George Weah. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Robert Padé, président du parti de l'unité de Joseph Boakai, a expliqué que ces discussions concernent une union de 4 partis, tous arrivés derrière George Weah. Ils disent vouloir s'unir pour défendre la démocratie. Nous pensons clairement que Weah ne peut pas diriger ce pays, a ajouté M. Padé. Une conférence de presse du parti de George Weah, prévue hier, a été annulée. Les discussions se sont déroulées le jour où devait en principe se tenir Mali, le second round de la présidentielle entre Georges Weah et Joseph Boakai. Le processus électoral a toutefois été suspendu par la Cour suprême qui a ordonné à la Commission électorale nationale d'examiner des recours avant de fixer une nouvelle date pour le second tour. Arrivé en troisième position, derrière Georges Weah et Joseph Boakai, Charles Brunskine, l'un des plaignants, a dénoncé des fraudes et des irrégularités lors du premier tour. Le report du second tour fait peser des incertitudes sur la première transition démocratique dans ce pays qui a connu l'une des plus atroces guerres civiles du continent.
Il est 6h05 à Richmond, en Virginie.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le président américain Donald Trump est arrivé en Chine pour sa première visite, dominée par la Corée du Nord et le commerce. Devant les parlementaires à Séoul, plus tôt ce mercredi, Trump a appelé la cruelle dictature de Corée du Nord à ne jamais sous-estimer l'Amérique, demandant à son jeune dirigeant Kim Jong-un à sortir de son isolement par la voie diplomatique. La tournée coïncide avec le premier anniversaire de l'élection à la présidence de Donald Trump, dont le parti républicain a essuyé plusieurs défaites lors d'élections locales, ayant pris l'allure de référendum contre le milliardaire. Écoutons l'avis du professeur Souleymane Béchir Diagne de l'Université Columbia, joint à New York par Idrissa Seydoudia.
Oui, comme vous venez de l'indiquer, effectivement, c'est quasiment l'anniversaire de son élection. Et voilà deux élections de gouverneur qui sont autant de victoires et des victoires beaucoup plus faciles, en fait, que prévu pour les démocrates. Cela est excellent augure, évidemment, pour les démocrates qui ont les yeux fixés sur les élections prochaines de 2018, un mandat, et qui, évidemment, ont salué cette victoire-là comme étant un signe annonciateur du redressement du Parti démocrate.
Le président Trump a lui-même réagi en disant que Ed Gillespie a travaillé dur mais ne s'était pas pleinement associé à moi ni à mes idées. Il se trouve que Gillespie est un membre de l'establishment, mais il a trouvé une solution assez originale quand il s'agit de Donald Trump, adopter ses idées et ses positions tout en le tenant à l'écart. Et on pensait que ça allait marcher.
Ben oui, justement, alors, on a appelé ça du Trumpisme sans Trump. C'est Bannon, d'ailleurs, qui a été conseiller de Donald Trump, qui a utilisé cette expression. Justement, parce que comme il a fait du Trump, surtout dans la dernière partie de sa campagne, il a d'autant plus transformé cette élection en une sorte de référendum pour ou contre Trump. Parce que, précisément, il a fait campagne sur des thèmes qui sont les thèmes sur lesquels Trump avait lui-même construit sa victoire. Et par conséquent, d'une certaine façon, c'est le Trumpisme lui-même qui était en jeu. C'est ce que les démocrates ont vu. Alors, il est normal que le président Trump ait tweeté ce qu'il a tweeté, parce que justement, il fallait se défendre de cette idée et au contraire, de dire que c'était parce que Gillespie n'avait pas assez, ne s'était pas assez engagé dans la ligne qu'il représente, qu'il a perdu. Donc c'est vraiment une manière de regarder, de tenir un certain tour à l'élection pour essayer d'en détourner la signification.
Et de façon générale, comment est-ce que les démocrates pourraient-ils maintenant exploiter ces deux victoires? Parce que quand même, ils ont perdu aussi dans d'autres élections, comme en Géorgie, il n'y a pas longtemps.
Oui, alors que ces élections avaient été annoncées comme étant des tests, ils avaient perdu ces tests-là. Cette fois-ci, je crois qu'ils vont analyser de manière très précise ce qui s'est passé en Virginie. C'était un candidat relativement modéré qui a gagné. Donc, c'est une indication, je crois. Ça va être une indication pour les démocrates. C'est la meilleure manière possible de choisir leur propre candidat et leur discours pour pouvoir espérer gagner les élections prochaines.
Souleymane Béchir Diagne de l'Université de Columbia. Un mouvement de grève à l'appel de formation indépendantiste catalane a provoqué aujourd'hui d'importants bouchons dans Barcelone, en Espagne, où des rues ont été bloquées et où des transports en commun fonctionnaient au ralenti. Cet appel à la grève a été lancé par le syndicat indépendantiste CSC avec le soutien des organisations dont les dirigeants ont été incarcérés le mois dernier pour sédition. Des groupes de manifestants ont bloqué les principales autoroutes de la région brandissant des pancartes réclamant la liberté pour les prisonniers politiques tandis que des échauffourées avec la police étaient signalées sur les réseaux sociaux. Jean-Roger Billon à ce micro, prochain journal. Dans 50 minutes, ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.